Voilà, voilà, ce sont des choses qui vont s'arranger. Il va y avoir bientôt l'info hein, sur Europe 1 à minuit, donc vous allez retrouver bien évidemment Raphaël Devolvé, mais j'ai un petit rendez-vous à vous rappeler qui est l'émission de référence sur les médias sur Europe 1 du lundi au vendredi de 9h à 11h. Philippe Vandel et ses chroniqueurs décortiquent l'actualité médiatique et culturelle, et demain, jeudi 16 mars, vous aurez d'abord la visite de José Dayan, réalisatrice de la série Captain Marlowe, qui viendra parler donc de Captain Marlowe. Et puis il y aura aussi Albin de la Simone qui interprétera le titre Les 100 prochaines années en live dans Culture Média. C'est demain à partir de 9h et ce jusqu'à 11h. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à appeler le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21 suivi du mot nuit. Et quand lettre majuscule, suivi d'un espace comme vous le faites nombreux. Et puis je vous donne un petit rendez-vous demain avec La France Bouge, qui est une émission du lundi au vendredi de 13h à 14h sur Europe 1. Écoutez La France Bouge avec Elisabeth Assayad, qui met chaque jour à l'honneur des audacieux, des entrepreneurs, des start-up qui osent et qui gagnent. Si le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat vous intéresse, eh bien vous serez parfaitement bien entre 13h et 14h sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag. La France bouge. On accueille Ludivine maintenant au 39-21. Bonsoir Ludivine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Ludivine et quel âge avez-vous?
Alors j'ai 36 ans, je vous appelle de Dordogne en fait.
De Dordogne.
Du sud-ouest.
D'accord.
Oui c'est ça.
Qu'est-ce qui vous amène Ludivine, dites-moi.
En fait, si je voulais passer en direct, c'est parce qu'en fait, il m'est arrivé quand même pas mal de choses avec mon concubin. Il est arrivé, enfin moi personnellement, et après quand on s'est mis ensemble et tout, après il est arrivé autre chose, pareil, la même chose, mais ensemble quoi. En gros, je suis là parce que pour parler des placements qui sont assez, je trouve, abusifs, oui. Et il n'y a pas que moi. Le subit malheureusement. Il y a beaucoup de parents en fait qui en sont très malheureux de ne pas avoir leurs enfants, alors que il y a des parents, il faut pas croire que tous les parents sont maltraitants. Il y a beaucoup de parents qui ne le sont pas. Des fois les gens font des signalements pour rien du tout. Des fois par exemple moi on m'a dit j'étais trop fusionnée avec mon fils. On m'a reproché, alors que, je sais pas, quand on aime un enfant, on a le droit d'être fusionnel.
Oui, ça c'est toujours une réflexion qui me sidère un peu, quand on reproche à une mère d'être trop fusionnelle. Ça veut dire quoi, alors, dans votre cas, on vous a dit...
Ça veut
vous
dire,
êtes...
en gros... excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, mais vous êtes fusionnelle, je suppose qu'on étaye un peu ça, on vous dit pas, vous êtes trop fusionnelle avec votre fils, et point.
Ils vous disent en gros vous êtes trop sur votre fils, ou soit vous l'êtes pas assez, ou vous êtes pas assez dans les je sais pas, dans l'autorité, vous en mettez pas assez ou vous en mettez trop. Enfin, ils ont toujours un prétexte en fait au niveau des juges, de la ZE. Enfin, on n'est pas écouté, on n'est pas du tout entendu, nous les parents. Enfin, c'est juste invivable, quoi. C'est un enfer. On tombe dans un enfer, dans un engrenage.
Alors, quand les réseaux sociaux mettent le nez dans une famille, et ce qui semble être le cas, c'est sûr que ça devient compliqué. Vous n'êtes pas assez, vous êtes trop, et après, vous n'êtes pas encore assez, et puis vous êtes trop. Comment les services sociaux arrivent à mettre le nez dans votre famille? Ça commence comment et quand, tout ça?
En fait, ils mettent le nez dans notre famille, en gros. Ben, déjà, je pense qu'ils se renseignent beaucoup avant, parce que c'est des tops, hein, faut le dire, hein, carrément, c'est des vrais tops. En fait, et quand ils se mettent dans votre famille, ils vous lâchent plus, quoi. Et en gros, ça peut aller par un signalement, ça peut aller par... beaucoup d'organismes font des signalements, genre les écoles, les PMI, les médecins, les hôpitaux, enfin plein de trucs comme ça. Et en gros, après c'est un enfer, quoi, c'est un enfer. Donc on vous prend vos enfants, soit c'est la juge qui vous convoque à vous prendre votre enfant, soit c'est la police qui vient avec les référents à eux, illégalement bien sûr, parce que là, normalement il faut une ordonnance de la juge comme quoi on peut prendre les enfants, Et en fait, ils n'ont pas toujours
D'accord,
kiffé.
mais
Ils font pas une
Ludivine,
égalité, en fait.
là, vous me dites on vient, on fait la police. Vous, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi?
Ah, moi, vous voulez savoir mon histoire.
Bah
Donc,
oui,
en
c'est un peu
gros,
le principe de la
j'essayais
libre antenne, c'est
de.
ça.
Oui, voilà, j'essayais d'abréger un peu parce que c'est assez long.
Non,
C'est
mais prenons notre
assez
temps,
compliqué.
on a notre temps, il n'y a pas de problème.
Alors, je vais vous expliquer. En gros, j'étais à la base, j'étais avec le père de mon fils. Je suis restée 6 ans avec lui. Bon, ça, je passe parce que voilà, quoi. Bon, il n'était pas terrible, hein. C'était un enfant, il jouait tout le temps à la console, il faisait n'importe quoi, il utilisait l'argent, pas pour le loyer, mais pour payer n'importe quoi, des consoles, machin et tout. Au
Oui.
bout de 6 ans, je l'ai quitté, je suis restée avec lui pour l'enfant au début, parce que je me suis dit, le pauvre et tout, s'il n'a pas son père, mais au bout de 6 ans, je pouvais plus, en
D'accord.
fait.
Donc
Donc je l'ai
vous quittez.
quitté.
D'accord.
Enfin, mon frère, il a dit, prends tes affaires et pars. Donc voilà. Donc il est parti et tout, en gros, ce qui a suivi, c'est qu'en fait, il nous a fait expulser le père de mon fils de notre appartement à cause de ça, parce qu'il ne payait pas le loyer. Comme on avait un compte commun, il pouvait prendre l'argent. Donc, du coup, moi, je pouvais pas aller payer le loyer, je pouvais pas trop faire de cours, je pouvais pas trop faire grand-chose, en fait. Vous voyez l'immaturité du monsieur, quoi.
Oui.
Donc, en gros, après moi aussi, j'avais certes mes torts, mais pas non plus abusé. C'est pas, enfin, j'ai abusé pas, quoi. Et en gros, en fait, on s'est retrouvés dehors. Donc, ma sœur m'a hébergée. Donc, du coup, c'est ma sœur qui a 2 ans de plus que moi qui m'a hébergée. Donc, voilà. Ensuite, mon autre sœur est venue et m'a dit, viens chez moi si tu veux, je vais t'aider et tout. On va te chercher un appartement et tout. J'ai été chez elle et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a pris ma carte bancaire. Alors, j'ai dit, mais pourquoi tu me prends ma carte? Elle me dit, parce que je vais t'aider. J'ai dit, ok, bah, je lui fais confiance. Et le lendemain, elle me dit, écoute, je t'ai pris rendez-vous avec une assistante sociale pour avoir un appartement, c'est super, c'est cool. Et je dis, ouais, c'est super, merci à toi. Pardon, excusez-moi. Et du coup, je vais avec ma sœur à l'assistante sociale, et l'assistante sociale me dit, vous êtes prête, signez les papiers. Et moi, je dis, c'est quoi? Vos papiers pour aller dans le foyer et sous tutelle. Je dis, mais comment ça, sous tutelle dans un foyer? J'ai jamais demandé ça. Et en gros. En gros, je regarde ma soeur, je me dis, mais tu m'as trahi, en fait. Je l'ai été sérieuse. Et elle me dit, t'en as besoin. Je lui dis, mais comment ça, j'en ai besoin? Je sais m'occuper de mon fils, je sais gérer mon argent. Il t'arrive quoi, en fait? T'es ma soeur, tu me trahis, comment ça? Donc ça, je l'en veux encore aujourd'hui. Hein. Ça m'a fait très mal au cœur.
Oui.
Donc moi, ce que j'ai fait, elle voulait me forcer à aller dans le foyer et tout, machin et tout. J'ai dit non, c'est mort. À la base, elle devait m'aider à chercher un appartement. J'étais en train de faire des recherches en plus, j'étais dégoûtée, quoi. Ça m'a fait mal au cœur, j'en ai pleuré la nuit et tout. Le lendemain, j'ai attendu qu'elle parte au travail et tout, et avec son copain aussi au travail. Et j'ai pris 2 valises, une pour moi, une pour mon fils, parce que j'avais mon fils, il avait 6 ans. J'ai pris une valise pour mon fils aussi, et je suis partie. Je me suis cassée, mais excusez-moi du langage, je me suis cassée de chez elle parce que je ne pouvais plus. Je suis
Et
partie
vous êtes
assez loin.
allé où?
À la base, je suis nordiste, je suis partie dans le sud, vous
D'accord.
voyez. Donc j'ai trouvé, j'ai pas trouvé de logement tout de suite, mais j'ai trouvé un camping. En fait, je me suis hébergée dans un camping, mais bon, pour moi, c'est un logement parce qu'en fait, dans un mobil-home, vous pouvez vivre, hein.
Bien sûr,
Donc, vous
bien
pouvez
sûr.
vivre tant que. Moi, j'avais pris 3 boulots, en fait. J'avais un CDI avec deux boulots où j'allais. Et j'avais des remplacements de temps en temps. Et ça me faisait de travailler de 7 h du matin. Je partais en vélo, j'amenais mon fils à l'école et tout. Et je revenais, il était 1 h du matin. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais avec mon ex, en fait. Et il s'occupait de mon fils l'école, quoi, en fait.
Votre ex, vous
Et
parlez
en
de celui
gros.
des PlayStation ou un autre?
Comment?
Vous parlez du papa ou votre ex, un autre
Non,
copain?
non.
Un autre?
Pas le papa.
Pas le
Ouais,
papa,
c'est ça.
un ex-fiancé,
Non,
quoi.
non, c'est ça.
D'accord?
Le copain, ouais.
Oui,
C'est
enfin,
un ex,
ex-copain. Moi,
quoi.
je dis fiancé
Je
parce
suis
que c'est
restée
mignon,
que
mais.
2 ans avec lui, mais voilà, c'est lui qui s'occupait de mon fils le temps
D'accord.
que
Et
j'aille au
lui
travail.
il vous rejoint dans le sud, lui, ou alors vous le connaissez dans le sud?
Non, mais je le connaissais déjà et en fait, on s'était mis ensemble et tout. Et en fait, on habitait dans le camping et tout.
D'accord. Donc lui,
Et en gros.
il a quitté le nord aussi, enfin il a quitté et il est venu avec vous dans le sud.
Non, il habitait déjà dans le sud.
Il habitait
Donc, il
déjà
n'avait
dans le
pas
sud.
trop.
D'accord.
Voilà, quoi.
OK.
Donc, du coup, si vous préférez, donc, je travaillais et tout, et arrivé là, ben, en fait, j'ai tout fait, en fait, pour pouvoir.
Avoir une petite
Parce que
vie
j'avais peur.
sympa.
Non, c'est parce que j'avais peur aussi de ma soeur à faire un signalement, quoi. Et je pense qu'elle l'a fait parce que ben, on m'a retiré mon fils, quoi. Donc, en fait, ben, j'ai tout fait. J'ai cherché un travail direct, en fait. J'ai pas attendu. Je me suis posée dans le camping. Hop, j'ai été faire les annonces, les offres
Oui,
d'emploi et tout.
oui.
J'ai trouvé des travaux et tout, trois. Donc, je me tuais à la tâche et tout pour pouvoir. Que mon fils, on ne m'enlève pas, en fait. Parce que
Oui.
j'avais tellement peur, en fait. Et en gros, on me convoque. On me convoque donc, au tribunal.
Là-bas dans le
Et
sud ou de...
oui, dans le sud.
D'accord.
C'était le tribunal de. Je sais plus trop.
Bon, ça,
Bordeaux.
c'est pas grave, c'est pas grave. Le divine.
Non, oui, Bordeaux, c'est ça.
D'accord.
Bordeaux.
On vous convoque dans le sud. Donc, votre sœur, vous avez retrouvé.
Oui, je pense que par le biais de quelqu'un d'autre, je pense, elle a
D'accord.
dû savoir où j'étais. Et du coup, je pense que. Après, c'est peut-être pas elle, mais je pense que c'est elle, hein, parce qu'il y avait elle
D'accord.
qui voulait que j'aille en foyer et tout. Donc,
D'accord.
du coup, ben, moi, j'habitais à Arcachon, en fait.
Oui.
Et moi, ils m'ont convoqué à Bordeaux. Donc, j'ai pris mon fils et ils m'ont dit de prendre Dylan. Donc, j'ai pris Dylan, j'ai été au tribunal et tout. Et
Oui.
là, de là, la juge, elle me regarde, elle me dit, madame, donc, il faut arrêter tout ça et tout. J'ai dit, comment ça?
Mais il faut
Bah,
arrêter quoi? Il faut
j'ai
arrêter
appris
quoi?
que vous êtes partie, parce que je suis partie dans le sud, donc elle n'a pas aimé. En gros, elle m'a dit vous étiez du nord à la base. Pourquoi vous êtes venue dans le sud? Bah, parce que bah voilà, ma soeur, j'ai raconté l'histoire et tout. Elle a voulu me forcer et tout, donc j'ai raconté et tout. Elle m'a dit ouais, mais ça, c'est pas bien. Vous faites passer du nord au sud votre fils alors que vous n'avez pas de logement. Ouais, mais je suis en camping, madame, et je travaille. Ouais, mais c'est pas un logement pour un camping. Donc en gros, elle m'a sorti ça dans la tronche. Après, elle m'a dit, bah, écoutez, votre fils, il va être placé. J'ai dit, comment ça, il va être placé? Elle me dit, oui, vous avez 5 minutes pour lui dire au revoir.
Oh là là.
J'ai dit, comment ça? 5 minutes? Je me suis mise à pleurer. Enfin, j'ai vu mon fils pleurer avant moi. Et il me regardait avec des yeux mais
Quel âge il
tristes, mais
avait, le petit?
j'étais 6 ans. 6 ans.
6 ans.
Et là, je me mets à pleurer. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux, 5 minutes pour lui dire au revoir. Mais j'ai dit, comment je peux faire? Je peux pas rassurer mon fils en 5 minutes, vous êtes sérieux? C'est un sérieux, pardon. Mais c'est l'émotion, c'est quand j'en parle, j'ai un peu de
Bien sûr,
remontée,
bien sûr.
voilà, de mauvais souvenirs.
On vous a dit qu'on plaçait Dylan juste parce que vous habitiez dans un camping?
Non, parce qu'en fait, en gros, ils m'ont dit, en gros, que ben, dû à l'expulsion que papa a fait à cause
Oui.
de lui, du coup, ils m'ont dit qu'en gros, j'étais instable. Alors que pas du tout quoi, c'est juste moi c'est pas moi, c'est moi je voulais payer des loyers, je pouvais pas et tout à cause de lui et tout. Du coup il nous a fait expulser parce que j'ai été chez ma soeur et que mon autre soeur m'a dit de qu'elle m'hébergeait moi parce que mon autre soeur ne pouvait pas me garder, je veux dire.
Oui,
Donc du
oui.
coup je suis passée de ma soeur à mon autre soeur et du coup ça pour eux c'est une instabilité, mais j'allais pas laisser mon fils à la rue. Vous
Ben,
comprenez
mais
bien qu'il
non, mais
fallait
bien
que
sûr.
je me trouve quelque
Mais
chose pour
c'est très cohérent ce que vous me racontez, Ludivine. Donc,
C'est normal en fait.
mais oui,
Enfin,
bien sûr, bien sûr.
voilà, comme vous dites, c'est cohérent.
Ben oui.
Donc,
Et est-ce que, question, est-ce que Dylan allait à
oui.
l'école quand vous étiez au
Oui,
camping?
bah oui, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, excusez-moi,
D'accord.
je parle un peu trop fort, désolé.
Ah oui, non, j'avais pas compris.
En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, le matin, je l'emmenais à l'école.
D'accord.
J'allais en vélo, il m'a son petit vélo, j'avais acheté un petit vélo, il avait un petit vélo, donc je l'emmenais, ou bien des fois, je le prenais sur moi avec le vélo et tout, sur le vélo, pardon. Avec moi et je l'emmenais à l'école et tout et après il allait à l'école mais pour mon fils ça se passait très mal parce que depuis qu'il est petit il est rejeté en fait
D'accord.
et mon fils il a des soucis de il a eu des soucis en étant petit de langage et de compréhension et en fait à cause de ça tout le monde l'a rejeté, il
D'accord.
était à l'école, il était dans son monde et tout, on me
D'accord.
l'a mis sur ma faute à moi. En gros, je le perturbais, que c'est à cause de ça. Ils savent même pas ce qu'ils. En gros, on m'a sorti. Oh, on ne sait pas ce qui s'est passé avec votre fils et tout, mais il m'en dirait, il s'est rien passé avec mon fils. Demandez-lui la vérité. Pourquoi ils ne lui demandent pas? Parce qu'ils savent que Diane, il va dire la vérité et que c'est pas vrai, en fait. Donc, ils ne lui demandent pas, mais ils me le disent, en fait. Donc, voilà, quoi. Donc, du coup,
Et donc du coup,
oui.
donc au tribunal, vous dites au revoir à Dylan. On vous dit quoi après? On vous dit qu'il va être placé où, comment, quand?
On me dit rien.
D'accord.
Juste on me dit il va être placé en urgence. Donc j'ai su après, je l'ai pas revu tout de suite, hein, ils ont mis plus de 2 mois. Donc, au bout de 2 mois, je le revois et tout. Il vient, il se met à pleurer. Maman, maman, je veux rentrer, je veux rentrer. J'étais anéantie quand j'ai vu mon fils comme ça dans cet état. J'ai fait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en gros, ils m'ont dit, oui, bah, Dylan était placé dans une famille d'accueil d'urgence. En gros, bah, il a été dans une famille d'accueil d'urgence. Et après, ils lui ont trouvé une femme, pour moi, une vraie famille d'accueil, parce qu'en vrai, une famille d'accueil d'urgence, c'est juste temporaire. Ils m'ont dit, ça sera 6 mois, pas plus. Hein. Ça fait 10 ans hein, qu'il est placé.
Ça fait 10 ans
J'espère,
qu'il
hein.
est placé. Ben ouais, c'est
Donc,
triste. C'est triste parce que, à part les problèmes à l'école, il n'y avait pas de problème. Dylan, il était heureux chez vous, il était bien.
bah, il était heureux. J'ai des preuves, j'ai des photos, des vidéos. Enfin, j'ai beaucoup de photos où
Et
il
ça,
sourit, il est content. Enfin,
ils n'ont rien voulu entendre de ça, je
non,
suppose.
non, non.
C'est fou.
Ils n'ont rien voulu.
C'est fou.
Ils n'ont rien voulu entendre et
Encore
tout.
une fois, on vous a jugé, hein?
Ouais. Bah, on juge en fait. Le problème, c'est que les juges et les aveux, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup quand même. Ils jugent alors qu'ils n'ont pas de preuves. C'est des on-dit, en fait. Des on-dit ou des sans-preuves ou
Et
juste
c'est
des
on dit,
signalements que
vous
les gens
pensez
ils font
que
ça.
c'est on dit, vous pensez que c'est votre sœur qui les a
Je pense.
qui... Ah
Je
oui.
suis pas sûre, mais ça peut être elle. Et du coup, en fait,
Oui.
si vous préférez, bah, en gros, ouais, ça peut être elle. Du coup, je revois mon fils, en fait, je vous disais. Et en gros, bah, il me dit qu'il a été placé en famille d'accueil d'urgence et tout. Ensuite, ils l'ont placé dans une famille donc il s'est fait frapper dans la famille d'accueil. Donc en gros la femme d'accueil le frappait, il me disait au début il avait peur de me le dire parce qu'il avait peur des représailles et en gros il m'a dit maman bon, il a pleuré, il a baissé la tête, au bout d'une demi-heure il m'a dit maman je me fais frapper par la femme d'accueil. Je lui dis comment ça, sérieux? Et il me dit maman dis rien, j'ai peur, j'ai peur. Je dis non je peux pas Dylan, c'est trop grave. J'ai été ramener Dylan donc à Bordeaux, je l'ai donné à la référente. Le temps que j'aille voir, j'ai demandé à voir le chef carrément de l'ASE. Hein. Je me suis embêtée. J'étais dans leur bureau, j'ai dit par contre, il y a un problème, et je fais quoi là? Ils m'ont dit comment ça? Je fais ben, je suis restée polie, je me suis pas trop énervée, mais un petit peu quand même, mais vite fait, j'ai pas été violente. J'ai dit par contre, j'ai un souci, mon fils là, il vient de me dire qu'il se fait frapper dans la famille d'accueil. On fait quoi? Je porte plainte, monsieur? Il me dit mais non, mais votre fils, vous savez, à mon avis, il en rajoute et tout. Ils m'ont traité de menteur. Ah, vous êtes sérieux? Donc, je sais que mon fils, déjà, pourquoi il me l'aurait dit, sachant qu'il avait peur des représailles? Moi, je crois mon fils. Moi, mon fils ou ma fille me dit oui, je me fais frapper, je le crois jusqu'à preuve du contraire, comme on dit. Voilà, c'est tout. Donc, en gros, bah, la femme, elle lui mettait des claques. Il est tombé d'un tabouret, bah, elle lui a mis une claque derrière elle l'a frappé, quoi, carrément. Elle le frappait régulièrement, c'est ce qu'il me disait. Son fils, un certain Aurélien, je ne sais pas comment, il le dit tous les matins, Dylan, il se levait, il lui mettait une grosse tape derrière la tête pour dire, allez, Dylan, hop. Enfin,
Et
c'est.
donc, en fait, vous n'avez pas revu Dylan, vous n'avez jamais pu récupérer Dylan. Quelle
En
raison on vous a
gros,
donné pour ça? Vous êtes resté dans le sud?
non, c'est parce qu'en fait, mon fils, c'est compliqué. Parce qu'en gros, donc les questions que vous me posez, c'est qu'en fait, ma vie n'avait pas été très simple. En fait, comment? Déjà, j'avais déjà perdu ma maman. Et au moment qu'on m'avait dit Dylan, j'ai perdu mon père, qui est décédé en même temps, donc la semaine suivante, et mon tonton aussi, qui est
Oui.
décédé la même semaine. Et du coup, ça m'a anéantie. Du coup, je suis tombée en dépression et tout. J'étais pas
D'accord,
bien, quoi.
d'accord.
Bon, ça n'a pas duré, hein. J'ai pris des médicaments pour la dépression. Je me suis soignée et tout. Donc, ça a été. Donc, je
Et ça,
voyais
c'était
Dylan
combien de
régulièrement quand
temps?
même, hein.
C'était avant la naissance de Dylan ou juste pendant la naissance de Dylan?
Non, non, c'était quand après que mon père soit décédé, qu'il m'a enlevé mon fils et tout.
D'accord.
Là, je suis tombée grave
Oui,
bas.
oui,
Je me suis
oui.
promis de plus jamais retomber aussi bas. Je me suis juré. Enfin voilà, en gros, attendez, excusez-moi, j'ai une mémoire. Je disais quoi déjà?
Bah, en fait,
Ah
là, justement, je vous demandais pourquoi vous n'aviez pas récupéré Dylan en 10 ans.
oui. Ben en fait, j'ai essayé, hein, c'est pas faute d'avoir essayé. Mais le problème, c'est que bah déjà, je voulais pas me défendre avec un avocat parce que je voulais parler moi, en fait, pour me défendre toute seule, en fait,
Oui.
parce que je me disais, l'avocat, il va pas tout dire de ce que je pense, en fait.
D'accord.
Et en gros, je demandais tout le temps, vous pouvez me rendre mon fils, en fait, à un moment donné, si je fais tout ce que vous me dites. J'ai fait tout, hein, je vous jure, hein, j'ai tout fait ce qu'ils m'ont dit. Hein. J'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé un appartement, j'ai tout fait. Et ils n'ont
Et
pas
ils vous
voulu
l'ont
me rendre,
jamais
ils trouvaient
rendu.
toujours un prétexte. Non, ils
Ouais.
trouvaient toujours un prétexte.
C'est fou ça parce
Après,
que tous les
c'est
parents,
abusé.
en fait, qui m'appellent sur cette antenne, me racontent la même chose. Comment se fait-il que lorsqu'on entend votre témoignage, Ludivine, lorsqu'on entend une femme qui a retrouvé du travail, trouvé un appartement, pourquoi en 10 ans on ne rend pas son enfant à Ludivine? Pourquoi est-ce
Oh,
que...
mais c'est pas le pire, ça. Hein. C'est pas le pire, ça, monsieur. Avec ma fille, c'est encore pire. Hein.
Ah bon, vous
Vous
avez
savez
eu...
même pas. Je rigole, c'est merveilleux parce que voilà, c'est voilà,
Alors,
mais
qu'est-ce qui s'est passé avec votre
c'est
fille?
encore pire.
Dites-moi.
Ma fille, vous savez pas ce qui s'est passé. Ma fille, attendez, j'ai accouché donc de ma fille. Et en fait, j'étais stressée parce qu'en fait, l'accouchement de mon fils s'est très mal passé. J'ai failli y rester.
Oui.
Donc en gros, ben, j'avais peur. Donc du coup, j'avais peur de ne pas avoir la
Vous
péridurale
étiez
à temps. Parce que
anxieuse.
voilà, j'étais anxieuse. Et comme j'avais pendant la grossesse un traitement pour l'anxiété, du coup, je me suis dit, ben, ils vont me donner ça va me calmer. Donc c'est bon. Et en fait, j'accouche. En gros, j'ai la péridurale. Et je vois. Bon, à la base, je croyais que c'était une sage-femme. Mais en fait, je me suis rendu compte il y a quelques temps de ça que c'était une dame de la PMI. Donc une infirmière. Je vois pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Mais elle me suivait, hein. Donc, elle me suivait pendant la grossesse un peu et tout.
Oui.
Mais elle m'avait dit qu'elle était sage-femme. Moi, je la croyais. En fait, elle a menti, quoi. Et en gros, l'accouchement s'est passé tout. Donc, ça va, j'ai pas eu de douleur et tout. Donc, je me sens bien. Mais je suis un peu stressée. Donc, je dis, bah, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir mon cachet que j'ai eu pendant la grossesse pour me déstresser un peu? Parce que, voilà, l'accouchement, j'ai eu beaucoup d'anxiété à cause de ça. Et ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Et du coup, ben, je dis, ben, vous n'allez pas me laisser comme ça. Vous voyez pas que je suis un peu stressée et tout. Enfin, je sais pas. Non, non, c'est pas possible. Il voulait pas me le donner, en fait. Donc, du coup, ben, j'ai dit, ben, voilà, tant pis et tout. Et elle arrive avec un médicament. Elle me dit, bon, allez, exceptionnellement, je vous donne ça. Je dis, c'est quoi? Parce que moi, je suis méfiante au niveau des médicaments. Et je dis, c'est quoi? Elle me dit, oh, c'est pour l'anxiété, vous inquiétez pas, machin. Okay. Je le prends. J'aurais pas dû. Hein. Je le prends. D'un seul coup, je vais dans la chambre. Pour l'instant, j'arrive à marcher encore. Ça va. Donc, je demande à voir ma fille. On m'en empêche. On me dit non, votre fille, vous ne pouvez pas la voir, il faut vous reposer. Après, deux fois, trois fois, quatre fois, on m'en empêche. Non, votre fille, elle est sous oxygène, sous néonate. Alors que ce n'était pas vrai parce que le papa y a été, elle n'était pas sous oxygène. Et c'est ce qu'on m'a dit, ils ont menti. Donc, en gros, là, ça allait encore. J'ai demandé à ma fille. On m'a dit non, vous ne pouvez pas l'avoir et tout. D'un seul coup, je ne me suis pas sentie bien, ma tête elle a tourné, machin. Je me suis allongée, je ne pouvais plus bouger. Paralysée. Mais complètement paralysée de la tête aux pieds. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus rien faire. Je pouvais à peine bouger les yeux, je regardais en l'air comme ça et tout. Et en gros, mon copain, il arrive et tout, il dit, c'est un psychiatre qui avait prescrit le cachet que la femme m'a donné. C'était du Lozapac, en fait. Et le copain dit au psychiatre, vous n'avez pas dosé un peu trop le cachet, ou je ne sais pas ce que vous avez fait à ma femme, mais vous avez vu dans l'état qu'elle est, elle ne peut plus bouger, c'est pas normal. Il a rigolé en disant ah oui peut-être que je l'ai trop dosé hein. Oui effectivement bon, désolé hein. Comme ça et il a rigolé il s'est foutu de ma gueule en fait et en gros bah, je suis restée paralysée j'étais pas bien donc au fond de moi j'étais anxieuse j'étais encore plus anxieuse qu'au début parce que je savais pas ce qui m'arrivait je connaissais pas et en gros le Lozapac en fait c'est un médicament qui vous bloque les muscles et vous pouvez plus bouger hein, par contre je vous le dis vous prenez ça vous ne bougez plus. Donc, en gros, bah, alors, je suis restée allongée. Même la femme de la mairie est venue pour me faire la reconnaissance de ma fille. Je ne pouvais même pas signer. J'étais limite, je ne pouvais pas bouger. J'étais à peine. J'étais consciente, mais c'était compliqué de signer. J'arrivais même pas à signer. Ils m'ont aidée avec leurs doigts pour essayer de signer, en fait.
De
Et en
signer
gros.
quoi?
La reconnaissance de ma fille. Déjà, j'ai même pas compris pourquoi la meuf de la femme, pardon, de la mairie s'est déplacée.
Oui, c'est très curieux.
C'est curieux, on est d'accord.
Bah,
Normalement, c'est nous qui allons à
normalement,
la mairie.
oui.
C'est bizarre. Ça, je trouve ça bizarre aussi. Et en gros, donc là, alors, tout s'enchaîne. Là, je vis un enfer, mais c'est pas possible. On me traite de folle. On me traite de on me dit de que je fais de la comédie, qu'en gros, voilà, elle est folle, il faut. Donc, on décide de me mettre en psychiatrie de force. Donc,
En
le procureur
psychiatrie.
a dit, oui, le procureur a signé pour dire, mettez madame en psychiatrie pour qu'on puisse lui prendre sa fille.
Vous
En gros, c'est
n'avez
ça.
jamais été interné avant, Ludivine?
Une fois, mais en fait, c'était pour un sevrage en fait, de médicaments que
D'accord.
j'avais depuis 2 ans qui me donnait des vertiges. Mais après, à la base, je devais aller en addictologie, mais en fait, je me suis retrouvée, je ne sais pas comment, en psychiatrie, parce qu'ils m'ont dit que c'était
Et vous
l'addictologie,
aviez quel âge?
l'hématologie
Vous
et
aviez quel
tout.
âge?
J'avais 20 et quelques, un truc comme ça.
D'accord, c'était avant d'avoir les enfants.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Et en
Vous
gros.
considérez que vous n'avez aucun trouble psychique, vous?
Ah non, non, non,
D'accord.
j'ai aucun trouble psychique. Je vous dis, j'avais arrêté un traitement que j'avais depuis 12 ans pour l'anxiété parce que
Oui.
je voulais me sevrer et être clean, en fait, être
D'accord.
bien, être tranquille.
Vous êtes de
Et j'avais
tempérament
tout arrêté,
anxieux,
en fait.
donc quand même, vous étiez de
À la
tempérament
base,
anxieux.
ouais, je suis tachycarde, en fait, moi.
D'accord, ok.
Donc, du coup, voilà quoi. Et donc, en gros, ben, donc je continue l'histoire. Donc, en gros, ils me mettent en psychiatrie. Alors là, c'est affreux quoi.
Mais oui.
Donc on m'isole 3 jours à l'isolement, donc 3 jours. Donc juste dormir, me gaver de cachet, ils m'ont drogué de cachet. Hein. Par contre, j'avais plus aucun cachet, hein. J'étais sevrée. Hein. J'étais dégoûtée. Ils m'ont remis dans les cachets. Ils m'ont donné Valium, quétiapine, Risperdal pour réguler l'humeur. Ils m'ont donné que des trucs lourds. Parce que Valium, c'est des doses de cheval, en fait, pour les chevaux, quoi, en gros. Et en gros, ils m'ont drogué. Les infirmiers se sont foutus de ma tronche en disant ça serait dommage de mourir en étant déshydraté. Il faut que vous buviez, madame. Je pouvais pas bouger. J'étais un légume. Ils m'ont mis des bas de contention parce que ma tension a chuté vu qu'ils m'ont trop drogué au cachet. Donc en gros, ils ont mis, mais ils étaient trop serrés. Donc du coup, au bout de 3 jours. Hein, que je faisais que dormir parce que manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir parce que je me levais, je faisais limite des malaises. Ils s'en fichaient de moi, ils m'ont enfermé pendant 3 jours. Mais en gros, les bas de contention qu'ils m'ont mis pour remonter la tension,
Oui.
en gros, bah, ils étaient trop tirés, trop petits. Donc en gros, bah, j'étais rouge vif et mes jambes, bah, les seins circulaient mal et tout. Du coup, j'arrivais pas à marcher, enfin, j'étais pas bien. Franchement, mon copain, il m'a vu. Au bout de 3 jours, je suis sortie. Ils m'ont laissé sortir. Pas de la psychiatrie, hein. Je suis sortie des 3 mois des 3 jours d'isolement en fait.
Oui.
Et en gros, j'étais un vrai zombie. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as et tout. Et j'étais limite la bouche limite presque ouverte à bafouiller,
Oui,
à.
oui, oui.
Je pouvais même pas me laver toute seule, je
À
pouvais
cause
même
des
pas manger
médicaments.
toute
Et ça a
seule.
duré combien de temps cet état-là?
Ils m'ont gardé 1 mois en secteur fermé, ça veut
Un
dire qu'on ne m'a
mois
pas ressortir.
en
Ouais.
psychiatrie.
C'est ça. Et ils me donnaient les médicaments, si je les prenais pas, bah, en gros, là-bas, si vous les prenez pas, ils vous forcent, en fait. Si tu les prends pas, bah, en gros, bah, ils te forcent. Et bah,
Alors
moi, du
que,
coup.
précisez-moi quelque chose, Ludivine, avant tout ça, vous ne preniez plus rien?
Non, j'avais plus de médicaments. En fait, c'est à cause d'eux que je suis retombée là-dedans, en fait.
D'accord.
Et ça, sur ça, je suis dégoûtée parce qu'aujourd'hui, c'est quand même affreux, quoi, d'avoir les médicaments et tout.
Aujourd'hui, vous en prenez beaucoup de médicaments?
C'est pas que j'en prends beaucoup, c'est que j'en ai tous les jours
Tous les
et ça
jours.
commence à m'énerver parce que bah ça m'embête vraiment au niveau de ma santé en fait.
Oui, et ces médicaments, en fait, ils sont toujours pour l'anxiété?
En fait, enfin, on m'a fait croire que c'était pour l'anxiété, mais j'ai su il y a pas longtemps que c'était un somnifère en fait qu'ils m'ont donné.
Un
Vous voyez, on m'a tout le
somnifère.
temps menti sur des médicaments et des trucs comme ça. Enfin, je sais pas comment ils font ça, mais ils arrivent bien à mentir. Faut se méfier en fait des professionnels.
Mais
Faut s'en
un
méfier.
somnifère qu'on vous fait prendre dès le matin?
Non, toute la journée. Là,
Toute
je
la
l'ai
journée.
encore au jour d'aujourd'hui. Et moi, je ne
D'accord.
savais pas, il n'y a pas longtemps, j'ai su que c'était un somnifère, en fait. Donc, voilà.
D'accord.
Donc, en gros, si vous préférez, bah, Ils m'ont donné de la quétiapine, ça vous grossit, on dirait que vous avez la langue grossie, vous zozotez, vous savez même pas ce que vous dites, les gens ils ont du mal à vous entendre parler, à vous comprendre. Ils m'ont donné du risperdal, alors le risperdal, il faut jamais le prendre parce que ça, ils disent, ça régule les nerfs, mais en fait ça vous rend encore plus, par exemple, si vous n'êtes pas suicidaire, ça peut vous rendre suicidaire ou ça peut vous foutre en dépression directe, hein, je vous le dis. Et moi je l'ai arrêté, je dis je ne veux plus de votre MERDE, excusez-moi, hein. Je l'ai arrêté, carrément, j'ai arrêté, après j'ai arrêté, mais je vous dis, quand je suis ressortie, c'était
l'enfer.
Je faisais des malaises, je tombais, j'étais avec mon compagnon, on avait, à ce moment-là, on avait déménagé, il préparait la maison pour la petite, hein, elle avait tout, la petite, donc du coup, on avait juste à la ramener à la maison, hein, à la base. Et en gros, bah, si on préférait, ça, c'était calvaire.
Vous faisiez quoi comme travail, Ludivine?
Ah, le travail, j'ai dû arrêter après.
Je sais, mais avant tout ça, vous faisiez quoi dans les boulots,
le travail,
vous les aviez trouvés dans quoi?
Je travaillais dans une banque, dans un journal qui s'appelle Sud-Ouest, et je faisais des remplacements dans une maison de convalescence, une maison de repos pour les gens.
D'accord.
Donc,
ça me touche beaucoup, votre témoignage, parce que vous êtes très cohérente dans votre témoignage.
Moi, je suis très cohérente.
J'ai un peu l'habitude. Mais vous savez, parfois, j'ai des gens qui ne sont pas très cohérents. Ça m'arrive.
Moi, je suis cohérente.
Mais vous êtes très cohérente.
Moi, j'ai un franc-parler. Des fois, on me le reproche, mais moi, je dis ce que je pense, en fait.
Vous n'avez, en 10 ans, jamais pris donc d'avocat?
Non, parce que je voulais que ce soit moi qui parle, en fait. Qu'on m'entende. Et à chaque fois que j'allais au tribunal, c'était je disais, ben moi je vais récupérer mon fils. Et à ce moment-là, quand j'avais pas encore ma fille, et la juge m'a dit, mais arrêtez d'espérer que votre fils va rentrer, en fait, ça n'a plus rien de demander, en fait.
Vous voyez Dylan aujourd'hui? Vous le voyez encore?
Oui, je le vois. Avant, je le voyais un week-end par mois.
Oui.
Mais le problème, c'est que j'ai eu un cancer il y a quelques temps de ça. J'ai dû me faire soigner. Donc, je suis partie pour me faire soigner. J'ai eu chimiothérapie, radiothérapie et curithérapie. J'ai eu des traitements lourds qui ont du coup, ça n'a pas aidé ma santé. Donc, je pense que le stress de la vie, plus des autres trucs derrière, le stress en général de la vie quotidienne, plus le stress de la vie, les trucs comme ça, ça m'a complètement détruit.
Oui.
Psychologiquement, ça allait, mais je veux dire, j'étais triste parce que j'avais pas mon fils.
Bien sûr.
Après, avec ma fille, c'est pareil.
Et Dylan, vous le revoyez aujourd'hui, toujours, là, un petit peu?
Je le vois qu'une heure par mois.
Une heure
parce
par mois.
En fait, il m'en restera mes droits quand j'ai été malade. Parce que vous savez qu'en France, on n'a pas le droit d'être malade quand on a un enfant placé.
Oui, je sais.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il dit, Dylan, de tout ça aujourd'hui? Parce qu'il
Dylan,
a 14 ans aujourd'hui.
Il est détruit. 16 ans.
16 ans.
Il est détruit, mon fils. Détruit. Ils m'ont détruit. Mon fils tremble, mon fils a peur. Il ne sait pas prendre un train tout seul parce qu'il a peur. Il voit personne, il ne sort pas, à part pour aller au collège. Il tremble. Moi, je l'ai vu.
Comment ça se passe au collège, vous savez?
Il a tremblé. Au collège, apparemment, ça se passe bien. C'est ce qu'on me dit.
D'accord. Mais est-ce que lui, aujourd'hui, il émet toujours l'envie de venir revivre avec vous?
C'est ce que j'allais vous dire. Il y a un organisme, je n'irai pas le nom de l'organisme parce que moi, je ne veux pas qu'on. Voilà.
Oui.
Mais il y a un organisme qui m'a appelé il n'y a pas longtemps et qui m'a dit, écoutez, madame, je vois votre fils régulièrement, j'aimerais bien qu'on se voit, pardon. Donc, on se voit parce que votre fils s'est confié à moi et il demande tout le temps à rentrer chez vous, en fait.
Oui, Bah,
et
voilà.
Moi, je sais que mon fils, je sais qu'il voulait rentrer depuis longtemps parce qu'il me disait tout le temps, il pleurait.
Mais oui, mais votre fils, il n'a jamais voulu qu'on l'enlève, surtout. Je me demande comment, à un moment, on enlève un enfant qui aime sa mère, qui est bien avec sa mère, et qu'on dit d'un seul coup, on décide que c'est dangereux pour lui.
Vous savez comment? Moi, je vais vous dire. Moi, je vous le dis, je ne vais pas mâcher mes mots. La vie, c'est un business. Les enfants sont un business pour de l'argent. Pour moi, c'est pour de l'argent. Il y en a peut-être des bonnes familles d'accueil et des bons aveugles, peut-être, c'est possible. Moi, j'en ai pas connu. Perso, j'en ai pas connu.
Non, mais si je vous pose cette question, Ludivine, je vous la pose, mais en même temps, c'est pour que celles et ceux qui nous écoutent ce soir comprennent bien que le témoignage que vous venez de nous livrer.
Mmh.
On le reprend là, on fait un bond en arrière au moment où vous me dites « On m'enlève mon fils parce qu'il y a eu un signalement alors que j'habite dans un camping, il va à l'école, il est heureux, je travaille. On m'enlève mon fils, je fais ensuite tout ce qu'on me demande pour récupérer mon fils. Je fais tout ce qu'on me demande, je ne récupère toujours pas mon fils. » Et aujourd'hui, il a 16 ans et une professionnelle qui le voit régulièrement vous appelle pour vous dire « Je le vois souvent et il a envie de rentrer, il a envie de vous... » vous retrouver. Alors, je demande ce soir à toutes celles et tous ceux qui ont pris la décision de placer Dylan quand il avait 4 ans, c'est ça ?
6 ans.
Quel âge ?
6 ans.
6 ans. Je demande à celles et ceux qui ont pris ces décisions, les juges, les gens de l'ASE, à quel moment la parole de l'enfant, elle compte ? À quel moment on entend et on écoute un enfant, la volonté d'un enfant ? À quel moment ?
Non, les enfants ne sont pas entendus.
Mais non, je le sais que les enfants ne sont pas entendus.
J'ai beaucoup de parents que d'enfants placés que je suis en contact. J'ai un groupe qui s'appelle les défense des enfants placés abusivement. J'ai plus de 1300 membres, j'ai beaucoup de témoignages et... Et en gros, ben, ils peuvent témoigner, les gens, je vous le dis.
Mais je vais vous dire, Ludivine.
Pour que les gens, ils oublient.
Je vais vous dire, Ludivine. J'ai deux de mes meilleurs amis qui travaillent dans la protection de l'enfance et des mineurs. Les deux, dans la justice, hein, les deux me disent que c'est un bordel sans nom. Voilà, voilà les mots qu'ils emploient. Quand je leur parle de l'ASE, quand je leur parle de l'ASE, voilà les deux, sans se connaître, ce qu'ils me racontent. Ils me disent, si tu savais, Olive, le bordel que c'est, et si tu savais le nombre de conneries qui sont faites, et justement, cette parole de l'enfant, on en parlait pas plus tard qu'il y a deux jours, où mon pote me parlait d'une histoire abracadabrante encore, où deux enfants, hein, un frère et une sœur, n'ont jamais pu réintégrer le foyer familial avec des parents qui n'avaient pas divorcé, qui étaient toujours 8 ans après ensemble et qui travaillaient tous les deux, parce qu'on avait signalé à un moment qu'ils étaient soi-disant maltraitants. C'est-à-dire que ce n'était pas au niveau de la violence, c'était au niveau du frigo, un tas de trucs qui n'ont jamais pu être vérifiés. Et on a enlevé par précaution. Et par précaution, c'est bien de défendre les enfants. Et il faut, par précaution... Dès qu'on a le sentiment qu'un enfant est en danger, il faut le mettre à l'abri. Mais le problème, messieurs, dames, le problème, vous qui nous écoutez, c'est que dès qu'un enfant en France est placé, les parents ne le revoient jamais. Pratiquement, plus de 60% des cas. Et ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable.
C'est ça. Mais vous imaginez que mon fils et ma fille ne se connaissent même pas. Ma fille, elle est née à la venue de son frère.
Moi, on leur demande,
mais vous ne pouvez pas faire connaître Dylan à Lilou, en fait.
Et alors, on vous répond quoi ?
Bah, en fait, au début, c'était lui. Après, on a changé de référente. Donc, du coup, bah, comme on avait déménagé et tout, bah, du coup, ça a été abandonné. Là, ils me disent, oui, on verra ça. Et après, ah bah non, c'est trop loin.
Quel âge elle a, cette petite, aujourd'hui ?
Elle a 5 ans, dis-vous.
Elle a 5 ans. Elle ne vous a jamais... En fait, on vous l'a enlevée à la naissance. Donc là, c'était encore plus facile.
Oui.
Elle sait qu'elle a une maman. Quel rapport elle a avec sa maman, Lilou, aujourd'hui ?
On la voit une fois par semaine.
D'accord.
2 heures, tous les vendredis.
Tous les vendredis. Donc elle sait qu'elle a une maman et tout. Et elle aussi, je pense qu'elle veut rentrer chez maman.
Bah, la dernière fois, elle était à la maison. Elle a dit, je ne veux pas partir. Et en gros, elle a commencé à pleurer. Et moi, j'arrivais pas, j'ai essayé de la consoler, elle pleurait, bon elle a pas pleuré non plus trop longtemps, mais elle a quand même pleuré quoi, elle a dit non, je veux pas partir.
Bah oui, bah parce qu'il faut savoir qu'un enfant, il sait quand c'est sa maman et qu'il a envie d'être près de sa maman, c'est tout.
Bah en fait c'est maman et papa quoi, c'est comme ça. C'est...
Oui, quand je dis maman, c'est bien évidemment, Ludivine, quand je dis près de maman, c'est aussi près de papa, bien évidemment.
C'est ça. ça. Non, parce que moi c'est toujours maman et papa. Il y a maman, il y a aussi papa, faut pas l'oublier. En fait.
Ben oui.
C'est ça, c'est pas méchant, mais voilà. Et en gros, attendez, c'est pas le pire. Ma fille, la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, elle a commencé à faire la pâte à modeler avec moi. La pâte à modeler. Et elle a commencé à vouloir faire un zizi sur le bonhomme de pâte à modeler. J'ai dit, Lilo, pourquoi tu fais ça? Elle m'a pas répondu, j'ai pas su pourquoi. La semaine d'après, elle vient, elle me dit, il y a deux petits garçons, des jumeaux, qui sont accueillis, qui sont été placés aussi, dans la même famille d'accueil que ma fille. Et en fait, ils ont un peu 4 ou 5 ans, enfin, un peu moins que... Ah non, ils ont plus 6, 7 ans, oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Et du coup, en gros, c'est des jumeaux et tout. Et Lilou, elle nous sort comme ça. Au début, elle le dit dans l'oreille de son père. Et quand elle avait son père, il a dit, il a parlé plus fort. Du coup, elle l'a dit fortement. Elle a dit, ah ben moi, j'ai douché David, donc l'un des jumeaux. J'ai douché David. Comment ma fille, à 5 ans, elle douche un garçon, tout nu. Comment ça? Et là, j'ai compris pourquoi elle faisait un zizi sur le bonhomme, en fait, le bonhomme de pâte à modeler.
Oui.
J'ai dit, c'est super. Donc, on met ma fille dans une famille d'accueil qui laisse faire ça. Et encore, c'est pas le. Il y a d'autres choses, je pourrais vous en dire plein. Ma fille, elle est pas très propre et on lui fait tout le temps ses oreilles, elles sont archi sales. Et une fois, elle avait du sang dans le nez, du sang séché. Enfin, elle avait, on a des photos hein, comme preuve, hein. Vous inquiétez pas, je prends plein de preuves. Moi. Elle avait, soi-disant, c'est connu dans un bar, elle arrivait à la maison et tout. Elle était soi-disant malade, ils ont trouvé les prétextes qu'elle était malade, mais c'est pour ça qu'elle était fatiguée et tout. Elle arrivait, elle avait un sort de bleu à l'œil, plus un bleu au niveau du front, et elle avait un sort de dessèchement en dessous de l'œil. Et j'ai dit à la TSF, c'est la travail sociale qui reste avec nous, parce qu'on ne voit pas notre fille tout seul. Hein. On la voit avec une travailleuse sociale, une femme qui reste avec nous les 2 heures. Hein. On ne peut même pas la voir tout seul. Voilà, pour pas qu'on puisse lui dire la vérité, lui parler, enfin, les choses comme ça. Et en gros, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en gros, elle m'a dit ça, ouais, elle s'est connue dans un bar. Et ma fille, elle me dit quoi? Elle me dit derrière, quelques jours plus tard, ah ben, maman, je dis, t'as eu quoi? Là, il dit, s'il te plaît, dis-moi la vérité, s'il te plaît, je veux pas que tu me mentes. Elle dit, je me suis fait piquer par une abeille. Non, Lilou, là, par contre, tu mens, je sais. Je sais que tu mens. C'est pas possible. Une abeille, ça fait pas ça. Et elle voulait pas me dire. Et elle a baissé la tête. Et j'ai compris direct. Et j'ai compris. Et je me suis dit là, non, elle a pas eu ça.
Mais, donc, mais vous savez pourquoi, lui dit Lina, pourquoi les enfants finissent par agir comme ça? C'est que les enfants, ils sont pas idiots. Et ayant entendu maintes et maintes témoignages de parents même, qui font très attention, comme vous, visiblement, vous faites très attention à ne pas avoir un mot qui dépasse l'autre, parce que les sanctions tombent très très vite avec l'ASE, avec les éducateurs, avec les référents, parce qu'ils sont ça. Dans la toute-puissance.
Et c'est ça, ils se prennent pour Dieu, en fait, ben, clairement.
Oui, malheureusement, oui. Malheureusement.
Et c'est, on ne peut pas les atteindre, c'est hallucinant. Les
et
gens,
mettons, bon, et mettons, la... pardon, et mettons, moi, pardon, non mais je voulais vous dire, mettons qu'un imbécile qui ne sait pas qu'il est imbécile ne doute jamais de rien.
Oui.
Parce qu'il est imbécile. On peut aussi faire la comparaison avec quelqu'un qui pense dans la toute puissance de son être qu'il a raison et qui se trompe. Mm-hmm. Qui se trompe, parce que comme dans tous les boulots, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais le problème, c'est que quand on est référent à l'ASE, éducateur ou éducatrice, et qu'on se gourre, eh bien, c'est de l'humain qu'on traite. Donc, on n'a pas le droit de se planter. Et le problème, quand mes deux amis qui sont dans le social me disent « c'est le bordel », ils m'expliquent que ces gens-là, non seulement, il y a aujourd'hui, malheureusement, et je vais le redire et je vais encore me faire allumer par, je ne sais plus, il y avait les éducatrices de l'ASE en colère là, qui peuvent, à chaque fois, qui me tombent dessus. Mais une de mes relations me disait qu'aujourd'hui, même pour être référent à l'ASE, il n'y a même plus besoin de passer un concours, ne plus avoir besoin d'avoir le bac et tout ça. Vous vous rendez compte?
Ils prennent n'importe qui.
ils prennent n'importe qui. Donc ça, ça va pas non plus. Comme les éducateurs qui sont dans les
foyers.
Sans diplôme, sans rien. Allez, bim. Et on se retrouve comme ça avec des problématiques d'éducateurs qui eux-mêmes sont maltraitants avec les gosses. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un secteur de la protection de l'enfance qui est comme l'éducation nationale, comme plein de choses en France, les parents pauvres et ils n'ont plus d'argent. Sauf qu'il y a quand même, comme vous le disiez, un business aussi pour les familles d'accueil. Mais ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, au même titre que les juges n'ont plus le temps de juger en leur âme et conscience d'une situation parce qu'ils sont débordés de boulot, eh bien, à l'ASE, c'est pareil. C'est pareil.
Ah, mais vous savez comment ça se passe. Ils prennent 15 minutes hein, pour lire un dossier. Donc, l'ASE leur font un rapport. 15 minutes, ils lisent le dossier. Ils prennent contact avec l'ASE, machin, et tout. Ils font le jugement. Allez, en une demi-heure, c'est bâclé.
Oui. Alors, ce soir, vous qui écoutez et qui êtes tranquillement chez vous, installé, où il n'y a pas de problème, vous savez que demain, c'est peut-être votre fille, votre fils, que ce genre de mésaventure touchera. Parce qu'il ne faut pas croire que les placements d'enfants ne se font que pour les pauvres. Hein. Alors, majoritairement...
Ah non, ça peut arriver, ça peut toucher tout.
Majoritairement, ce sont quand même les gens qui galèrent, auxquels on s'attaque le plus facilement, parce que c'est tellement facile. Mais il y a des cas, parce que je vous dis, c'est quelque chose dont j'entends parler régulièrement à la protection judiciaire de la jeunesse. On a des fils de médecins, des fils d'avocats qui partent dans la tangente parce qu'ils fument des joints, des machins, et boum, d'un seul coup, il y a un placement. Donc, je veux dire, sentez-vous concerné, vous qui nous écoutez, par cette problématique. Encore une fois, on est dans un secteur où l'on traite de l'humain et on ne peut pas ne pas respecter la parole de l'enfant. On ne peut pas entendre un enfant qui traverse les années et qui émet l'envie de vivre avec son père et sa mère. Parce qu'au bout du compte, on a beau vouloir les protéger, on les broie en les séparant de leurs parents.
Ah mais carrément, complètement. Ils les détruisent. Il y a des parents qui disent, quand ils récupèrent leurs enfants, soit la majorité, dans des rares cas, ils les récupèrent avant, mais je veux dire, mon fils, voilà, je ne reconnais plus mon fils, il est détruit. Ouais, maintenant, ça va être le suivi psychiatre, ça va être le suivi psychologue, ça va être le suivi de mal. Après,
c'est vous qui allez récupérer tout ça, hein, Ludivine.
C'est moi. Et
ben oui, parce que quand il va avoir 18 ans... Mon compagnon
qui a tout récupéré, dans un état...
Parce que la grande problématique aussi, c'est que quand ces enfants quittent l'ASE à 18 ans, alors, il y a un suivi pour certains d'entre eux, mais pour la grande majorité, au revoir, merci.
Ah, mais à 18 ans, vous ne savez pas. À 18 ans, c'est ils les jettent à la rue comme des malpropres.
Pas tous.
Pas tous, peut-être. Non. Mais il y en a qui les mettent à la rue. Mon compagnon, il a été ancien ASE. C'est un ancien de l'ASE, pupille de la Nation. Lui, et il est juste à côté de moi, donc voilà. Et en gros, à 16 ans, à quel âge que tu as été dans le foyer, enfin dans l'hôtel, à l'hôtel, c'est ton lycée. Voilà, il a été livré à lui-même dans un hôtel et tout, et tout seul. Et en gros, personne ne le surveillait.
À 16 ans.
Donc en gros, 16-17 ans.
Alors je sais que pour les enfants pupilles de la Nation, les enfants qui n'ont plus de parents, en tout cas dont les parents ont disparu pendant le placement, qui sont dans des cas vraiment de protection de l'enfance. Il y a quand même pour certains enfants, je le dis, parce qu'on ne va pas non plus mettre l'ASE complètement au banc de l'accusé, au banc des accusés, il y a un suivi pour certains de ces enfants. Mais pour la grande majorité, à 18 ans, c'est au revoir, merci. Et ce sont les parents... Ce sont les parents, donc là...
Qui doivent se débrouiller derrière. Voilà.
Et là, on ne vient pas voir si tout se passe bien, là. C'est démerdez-vous.
C'est ça. Et encore, non, c'est pas sûr, monsieur. C'est pas sûr. Excusez-moi de vous couper, mais c'est pas sûr. Parce qu'encore, à 17 ans, ils peuvent proposer un contrat jeune. Attention, mais ça, je l'ai entendu. Et ça, c'est négatif. Mon fils, il ne l'aura pas. Ça, c'est hors de question.
Qu'est-ce que c'est qu'un contrat jeune, alors ?
Je l'ai cherché. Un contrat jeune, c'est qu'un contrat qu'il propose, et du coup, en gros, c'est un contrat où l'enfant, il va être de 17 ans jusqu'à 21 ans, il va rester encore là-bas. Et là, faut dire non, quoi, parce que sinon, les parents ne voient pas leurs enfants avant 21 ans.
Alors, je pense que ça, ces mesures-là, c'est
particulier. Oui,
ils proposent
des contrats aux jeunes, quoi. Donc, enfin, voilà, il les manipule. Enfin, pour moi, il les manipule. Je suis désolée, il les manipule. Comme il y a des familles d'accueil qui, pas toutes, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, je suis sur la part des choses, mais il y a quand même des familles d'accueil qui sont quand même manipulatrices et qui manipulent les enfants. Pour essayer d'enlever les liens, ou même, vous imaginez que les enfants, ils ont encore des parents et ils se font adopter. C'est hallucinant.
C'est totalement hallucinant. Vous savez, on a eu le témoignage d'une grand-mère qui était famille d'accueil elle-même, dont les deux petits-enfants, qui avaient, je crois, 5 et 9 ans, étaient placés et on lui refusait donc d'accueillir ses petits-enfants, alors qu'elle était professionnelle de. Voilà, elle était famille d'accueil. Et on lui proposait à la place d'autres enfants à accueillir.
Ah,
je peux vous dire que c'est un témoignage qui a grandement fait poser des questions à nos auditeurs et nos auditrices. Comment une grand-mère, donc reconnue par l'ASE comme étant une bonne famille d'accueil, voilà, ne pouvait pas elle-même accueillir ses petits-enfants. Encore une fois, tout ça était lié à la fusion avec la mère, mais d'antan, hein, quand on avait retiré. Donc, à la mère, mais qui était toxicomane, donc là pour de bonnes raisons, mais qui
oui,
allait
il y a
mieux,
des bonnes raisons, des
mais
moments.
Qui allait mieux depuis, et
Oui.
mais qui disait bon, moi je ne veux pas récupérer mes enfants tout de suite comme ça, mais ma mère peut les bon, eh ben non. Voilà. On n'a plus que 5 minutes, Ludivine, et donc j'aimerais bien conclure sur votre situation personnelle et sur Lilou. Est-ce qu'il y a des chances que vous récupériez Lilou là?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'ils disent qu'à chaque fois, oui, on va faire évoluer, on va faire évoluer. Ça fait 5 ans que ça n'évolue pas, quoi. Donc, non. À mon avis, moi, je suis pas... c'est pas que je suis pas positif, mais là, pour moi, vu ce qu'ils ont fait avec mon fils, moi, j'ai
oui,
pas trop
vous
d'espoir.
Plus en confiance.
Mais après, je garde l'espoir.
Mais vous m'avez dit que vous la voyez tous les vendredis soirs, mais elle dort à la maison, un peu? Elle passe une nuit
non.
au moins à la maison? Non.
Non, non. Elle ne peut pas dormir à la maison, elle reste 2 heures et c'est tout.
D'accord.
Et voilà.
C'est dingue. C'est dingue, c'est le supplice pour une enfant. Elle va passer 2 heures chez ses parents. Et donc, on fait confiance à... on fait confiance à des parents l'espace de 2 heures. On répète cette opération donc, toutes les semaines. Ça se passe bien. Et à aucun moment, on se dit bah, « Tiens, on va tenter de faire ça une soirée. » pour voir, et puis la récupérer le samedi matin, pour voir. Non, ça, c'est vous dites que la situation est figée comme ça depuis un moment.
Ben, ça fait un moment. Hein. À la base, avant, ce n'était pas aussi concret, quoi. Mais maintenant, les ASE ne se gênent plus, quoi. Enfin, les juges, les ASE, la justice, elle n'est pas normale. Enfin, c'est pas normal ce qu'ils font, en fait.
Vous allez bien, vous, Ludivine, aujourd'hui?
Moi, je vais bien,
non,
mais...
Non, non, je vous parle physiquement, psychiquement. Vous êtes, à part, bien évidemment, cette situation qui doit beaucoup vous impacter, mais...
ça m'a impacté.
Vous êtes en mesure d'accueillir vos enfants chez vous. C'est ça que je veux dire.
Ah oui, oui. Bah oui, parce que tous les vendredis, j'accueille ma fille avec mon compagnon. Je vais à Bordeaux voir mon fils. Enfin, voilà, une fois par mois. Oui, non... Mais voilà, moi j'ai quand même eu un cancer, j'ai eu probabilité, il y a quand même des inconvénients dus au traitement lourd. Donc ma santé, elle est bien, mais c'est juste que des moments, bah, voilà, je vais avoir des inconvénients dus au traitement du
oui,
cancer.
Oui, ça je l'entends, c'est normal.
Pas, mais ça va quand même. Mais c'est plus niveau sentiment, j'ai mal au cœur, j'ai vraiment mal au cœur. Parce que quand... vous êtes chez vous, ça fait un vide, en fait. Vous n'entendez plus le rire de votre enfant. Enfin, vous savez ce que ça fait, vous n'avez plus entendu le rire de votre enfant.
Bien évidemment, je suis papa,
vous
moi. Donc, je sais de
voilà.
quoi vous me parlez. J'ai la chance
voilà,
d'avoir
le matin,
d'avoir
c'est
mes enfants.
C'est horrible. c'est horrible. On se lève, on n'entend plus son enfant. Le matin, c'était le câlin du matin. Moi, c'était avec mon fils. C'était le matin, c'était le câlin. C'était tout. C'était mon fils, c'était tout pour moi. Ma fille, c'est tout pour moi. Je suis même émue d'en parler parce que voilà, c'est pas vivable. En fait, c'est plus vivable. Moi, ça fait 10 ans pour mon fils, 5 ans pour ma fille. Je n'y arrive plus parce que j'arrive pas à les sortir de là.
Oui.
J'essaie de me battre et je continuerai.
Oui,
je ne baisserai pas les bras.
Vous êtes une voix encore plus qui résonne dans la nuit là sur Europe 1. Une voix de plus d'une maman qui, comme toutes les mamans et tous les pères qu'on a eus sur cette antenne, une fois les enfants placés, n'ont jamais réussi à récupérer leurs enfants. Donc c'est terrible, c'est terrible. Vraiment. Merci en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Ne manquez pas de nous tenir au courant, je le dis à tous, hein, c'est ma formule, mais ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous connaissez le chemin maintenant, donc si vous avez besoin que votre voix résonne encore un peu plus à un moment ou un autre, n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord ?
Est-ce que je peux dire un dernier truc ?
Allez-y.
Si ça ne vous dérange pas. Il y avait une manifestation à Bligny-sur-Ouche pour les enfants pour les enfants placés, en fait. Donc
oui.
Le 31 mars au 1er avril, en fait.
D'accord.
Et le 2 avril, oui.
Où ça, vous m'avez dit, répétez ?
À Bligny-sur-Ouche, je demande à mon compagnon.
D'accord,
parce que je savais pas trop.
Très bien.
Dans la Côte d'Or 21.
Côte d'Or 21.
Je préférerais faire passer le message.
Le message. D'accord.
Et j'aimerais juste dire un dernier truc, excusez-moi.
Dépêchez-vous, c'est la fin.
Juste au niveau des ASE et des juges, est-ce qu'ils arrivent à se regarder dans le miroir quand ils font ça, en fait ? Est-ce qu'ils arrivent à se regarder dans un miroir en sachant qu'ils font souffrir des enfants ?
Ça restera un grand mystère,
pas.
En tout cas. On vous embrasse, en tout cas, vous et votre compagnon, et Dylan et Lilou, bien évidemment. Et je vous souhaite plein de courage.
Merci de m'avoir entendu,
je vous en
de m'avoir
prie.
Laissé témoigner.
Je vous en prie.
Merci.
Bonsoir, Ludivine.
Bonsoir.
Bonsoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un moment particulier, comme chaque soir. C'est particulier et c'est pour ça que nous sommes là, ici, sur Europe 1. C'est pour ça que cette libre antenne existe, qu'elle est pour vous. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime, on vous respecte et que voilà, vos voix résonneront le temps que Europe 1 sera là. On vous embrasse. Salut.